Chapitre 25. Ce chapitre commence par la parabole des 10 vierges. Ce monde présente une scène très embrouillée à tous égards. À la vue du Seigneur, tout sera démêlé. Nous l'avons déjà vu au chapitre 13 dans la parabole du froment et de l'ivraie, et dans celle du filet jeté dans la mer, et de nouveau dans les versets que nous venons de considérer à la fin du chapitre 24. Et nous retrouvons ce même grand fait dans cette nouvelle similitude du royaume des cieux. Le Seigneur avait déjà mentionné l'assemblée par anticipation, mais il ne dit pas ici « alors l'assemblée sera faite semblable », mais « le royaume des cieux », une sphère plus vaste que l'assemblée, tout en l'incluant. Aussi les 10 vierges ne représentent-elles pas l'assemblée d'une manière distincte, bien que celle-ci soit comprise. Nous pouvons donc bien appliquer cette parabole au sein de la période actuelle, nous l'appliquer à nous-mêmes. Les vierges sortirent à la rencontre de l'époux, tout comme nous-mêmes avons été appelés hors du monde pour attendre le Seigneur. Il y a eu une période d'oubli et de sommeil dans l'histoire de l'Église. Un cri a été lancé, annonçant la venue de l'époux, un cri disant « sortez à sa rencontre ». C'est-à-dire revenez à votre position première en tant que peuple élu. Pendant la période de sommeil, il n'y avait que peu ou pas de différence visible entre les vierges sages et les folles, mais celle-ci apparaît aussitôt qu'elles se sont réveillées et ont repris leur place primitive. Celles qui n'avaient pas d'huile ont été manifestées. L'huile représente le Saint-Esprit. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Romains 8, verset 9. On s'est servi de cette parabole pour soutenir l'idée que seuls les croyants consacrés, très vivants, rencontreront le Seigneur à sa venue et que ceux dont le mérite est moindre seront pénalisés. C'est une erreur, à notre avis. Dans tout ce passage, il s'agit de la manière dont la venue du Seigneur fera une séparation complète entre ceux qui lui appartiennent véritablement et ceux qui ne sont pas siens. Dans cette parabole, la séparation est établie entre les sages et les folles dans la sphère de la profession. Seuls ceux qui sont véritablement de Christ ont le sceau de l'Esprit. La porte fermée scelle le rejet définitif de ceux qui sont faux. Les vierges folles ne représentent pas les apostats, c'est-à-dire ceux qui, une fois, ont connu le Seigneur et ont été connus de lui. Il n'est pas dit « je vous connaissais autrefois ». Mais maintenant je vous désavoue. Mais bien, je ne vous connais pas. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens, mais ceux-ci étaient des étrangers pour lui. Au verset 13, le Seigneur fait l'application de cette parabole à ses disciples et à nous-mêmes. Nous ne connaissons pas le moment de la venue du Fils de l'homme, et nous sommes appelés à veiller. Ainsi, une fois encore, il veut que son enseignement prophétique exerce une influence sur notre caractère et notre conduite. Il ne nous éclaire pas quant à ce qui doit arriver, simplement pour nourrir notre esprit et satisfaire nos désirs personnels. Aussi, après nous avoir exhortés à la vigilance, il montre dans le reste du chapitre l'effet que sa venue doit avoir sur nous, comme serviteurs, et aussi son effet sur le monde. La séparation qu'elle produira sera complète. La parabole des esclaves et des talents vient renforcer l'exhortation à la vigilance donnée au verset 13. Elle montre que la venue du Fils de l'homme sera le test pour tous ceux qui prétendent être ses esclaves et aboutira au rejet de tout ce qui n'est pas réel. La pensée que pendant le temps de son absence, le Seigneur a confié ses biens aux siens est propre à nous exercer. Ses intérêts ont été placés entre nos mains et nous ne pouvons pas nous soustraire à la portée de la parabole en disant « je n'ai pas de don particulier, aussi cela ne me concerne pas. » Le maître remet ses biens à ses esclaves, à chacun d'entre eux. Il a le discernement pour apprécier les aptitudes de chacun et il donne à chacun selon sa propre capacité. Il nous faut donc distinguer entre les dons qui peuvent nous être octroyés et les capacités que nous avons, sans jamais oublier que c'est le Seigneur qui ajuste la relation entre les deux. Nos capacités couvre nos facultés naturelles aussi bien que spirituelles. Et si celles-ci ne sont pas très grandes, 5 talents, ou même 2, seraient seulement un fardeau pour nous. Le Seigneur, le sachant, ne nous en donnera alors qu'un. Nous pouvons établir la relation avec les dons mentionnés en Romains 12, versets 6 à 15, dont le caractère est tel qu'ils englobent tous les enfants de Dieu. Que le don soit grand ou petit, l'important, c'est de le faire fructifier. L'esclave qui a reçu 5 talents et celui qui en a eu 2 ont fait preuve de la même diligence. Les deux sont parvenus à doubler ce qui leur a été confié. Et au retour de leur maître, ils ont l'un et l'autre droit à son approbation et à sa récompense. Remarquons que, dans cette parabole, de nouveau, le contraste n'est pas entre la fidélité et la diligence plus ou moins grande dont les vrais esclaves peuvent faire preuve, mais entre des esclaves véritables, bien que n'ayant pas la même mesure de capacité, et quelqu'un qui n'était pas un vrai esclave. Celui qui a reçu un seul talent l'a caché dans la terre, au lieu de s'en servir dans l'intérêt de son maître, et il a agi de la sorte parce qu'il ne connaissait pas vraiment son Seigneur. Il prétend qu'il le savait être un homme dur, exigeant davantage que ce qui lui a été dû, quelqu'un de redoutable. Son maître le prend sur le terrain de la connaissance qu'il prétend avoir et lui montre que son prétexte ne fait qu'aggraver sa culpabilité. Car si son Seigneur avait été un homme dur, il aurait eu d'autant plus de raisons de faire un bon usage du talent qui lui avait été confié. En réalité, le maître n'était pas du tout un homme dur. La manière dont il traite les esclaves bons et fidèles en témoigne. Le fait est que cet esclave ne connaissait pas véritablement son Seigneur, qu'il n'avait pas de lien réel avec lui. Il perd alors tout ce qui lui avait été confié et il est jeté dans les ténèbres de dehors, là où sont les pleurs et les grincements de dents, comme l'esclave méchant décrit à la fin du chapitre précédent. Dans la parabole correspondante, rapportée en Luc 19, une distinction est établie entre les différents esclaves d'après le degré de leur zèle et de leur fidélité, et ils sont récompensés en conséquence. L'esclave qui n'avait reçu qu'une mine subit une perte, mais il n'est pas jeté dans les ténèbres. Il est remarquable que, dans les deux cas, c'est l'homme à qui il a été confié le moins qui faillit. Sondons notre propre cœur, et nous devrons reconnaître que, quand ce sont des petites choses qui sont à notre portée, nous avons tendance à ne rien faire du tout. Le Seigneur ne manquera pas d'honorer l'esclave qui accomplit avec zèle et fidélité les petites choses, bien que n'ayant que peu de capacité. Le dernier paragraphe de ce chapitre, versets 31 à 46, n'est pas présenté comme une parabole. Celles-ci, qui ont commencé au verset 32 du chapitre 24, sont maintenant achevées, et le verset 31 reprend le fil du récit prophétique du chapitre 24, verset 31. Quand il viendra, le Fils de l'homme ne rassemblera pas seulement ses élus, mais il fera comparaître les nations devant lui pour qu'il y ait sur toute la terre une séparation complète entre le bien et le mal. Toutes les nations seront assemblées devant lui, et cette scène aura lieu sur la terre. Lors de la comparution finale annoncée en Apocalypse 20, quand la terre et le ciel se seront enfuis, il n'y aura plus de nations. Ce sont les morts, les grands et les petits, car dans la mort, toutes les distinctions nationales disparaissent. D'autres passages nous renseignent sur les jugements guerriers qui sont exécutés par Christ personnellement lorsque les puissantes armées des différents rois de la terre seront détruites à Armageddon. Mais, après ces jugements, il y aura encore des multitudes de civils, ils devront tous comparaître devant le Fils de l'homme, car lui seul a la sagesse infaillible pour discerner et séparer. Il agira comme un berger qui sépare les brebis d'avec les chèvres, et les résultats de son jugement seront éternels, tout comme ils le seront lors du jugement du grand trône blanc. Ici, comme alors, les hommes seront jugés selon leurs œuvres. Dieu connaît l'état véritable de chaque cœur, indépendamment des œuvres. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un jugement public, c'est toujours en relation avec les œuvres, car par elles cet état est manifesté d'une manière claire et infaillible, et ainsi tous les témoins doivent constater que les jugements divins sont justes. Ces messagers que le roi appelle « mes frères » étaient ses représentants. Le traitement qui leur était réservé dépendait de la considération portée au Fils de l'homme au nom de qui il se présentait. Ceux qui croyaient en lui s'identifiaient à ses messagers et les assistaient dans leurs réjections et leurs afflictions. Ceux qui ne croyaient pas en lui ne leur prêtaient aucune attention. Ceux qui avaient la foi la manifestaient par leurs œuvres. ceux qui ne l'avaient pas le prouvaient par leurs œuvres également. Remarquez que le roi n'accuse pas ceux qu'il condamne d'avoir persécuté et emprisonné ses serviteurs, mais seulement de les avoir ignorés, de ne leur avoir accordé aucune attention. Cela rejoint la question si importante de Hébreux 2. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? En ce jour-là, on verra que si les hommes méconnaissent Christ en méconnaissant ses serviteurs, ils se sont placés sous la condamnation éternelle. Qui sont ceux-ci, mes frères? Si nous prenons dans leur ensemble les déclarations prophétiques dont nous avons ici la conclusion, la réponse est simple. Au début de son discours, le Seigneur s'adresse à ses disciples personnellement. Il leur annonce qu'ils seraient haïs, maltraités et trahis, mais que la fin ne viendrait pas avant que cet évangile du royaume ait été prêché en témoignage à toutes les nations, et que ceux qui persévéreraient jusqu'à la fin seraient sauvés. Il s'exprime comme si les disciples auxquels il parlait devaient être là à la fin, car il les considère comme les représentants du résidu à venir. Les frères de la fin du discours sont les disciples des derniers jours, et ceux-ci étaient représentés par les disciples du début auxquels il s'adressait. Même si, un peu plus tard, ils allaient être baptisés de l'Esprit en un seul corps, l'Assemblée, comme acte de leur apporte, ils n'étaient à cette époque qu'un résidu d'Israël qui avait discerné en Jésus le Messie et s'était attaché à lui. Ils représentaient ce même résidu d'Israël qui, dans les derniers jours, aura les yeux ouverts et reprendra le fil brisé de cet évangile du royaume, brisé lorsque Christ a été rejeté sur la terre, repris et renoué juste avant son retour sur la terre pour régner. Dans ce dernier paragraphe du chapitre 25, la fin est là. Le Fils de l'homme est roi, les disciples qui ont persévéré jusqu'à la fin sont sauvés, les nations sont jugées, la séparation entre le bien et le mal est achevée, le résultat du jugement est éternel. Le mot « éternel » revient trois fois. Le châtiment des méchants et le feu dans lequel ils sont jetés sont éternels. La vie dans laquelle les justes sont introduits est éternelle. L'antithèse de la vie n'est pas la cessation de l'existence, comme ce serait le cas si vivre signifiait simplement exister ensuite de l'étincelle vitale demeurant en nous. C'est le châtiment, car la vie éternelle comprend toute l'étendue des vérités bénies et éternelles qui seront la part des justes à toujours. L'aspect souligné ici n'est pas celui de la vie qui est en eux, ce sont eux qui entreront dans la vie. Le discours prophétique du Seigneur se termine sur cette note heureuse.